Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa maliwe.
Galère, galère, bonjour. Émission Livres et Amis du mercredi 2 mars. Nous poursuivons nos voyages. Nous quittons la Caraïbe où nous étions la semaine dernière avec Marie Scondé pour l'autre tropique, le tropique du Capricorne, avec un livre de Natacha Apana paru en 2016, Tropique de la violence. Natacha Apana est une journaliste et romancière mauricienne installée en France. Je l'ai découverte en 2003 avec son premier roman, Les Rochers de Poudre d'Or, qui racontait l'histoire affreuse des engagés indiens partant pour les plantations de canne à sucre de Maurice et de La Réunion à la fin du XIXe siècle et qui trouvaient des conditions de vie proches de celles des esclaves qu'ils devaient suppléer. Quand Odile m'a proposé de vous lire Tropique de la violence, j'ai tout de suite dit oui, car l'écriture de Natacha Apana est splendide, aussi bien dans ses descriptions de paysages que dans ses analyses psychologiques. Avec Tropique de la violence, le cadre du roman est Mayotte, la Comore française, avec sa population installée, mais aussi ces vagues de réfugiés qui déferlent sans cesse des autres îles, attirées par le statut supposé privilégié du département français. Le héros central du roman, un adolescent nommé Moïse, est l'un de ces réfugiés, débarqué tout bébé sur l'île et adopté par une Française en mal d'enfant, récemment séparée de son mari comorien, mais bien intégrée dans la société de Mamoudzou, le chef-lieu économique de l'archipel, grâce à son métier d'infirmière. Moïse a donc vécu une enfance protégée auprès de sa mère adoptive, Marie, entourée de ses camarades de mêmes conditions sociales. Mais Marie meurt brutalement et Moïse, livré à lui-même, rejoint les enfants des rues dans le bidonville nommé Gaza, où il se livre à toutes sortes de trafics pour survivre. Le récit s'organise autour des trois voix de Marie, Moïse et Bruce, le chef de Gaza, un adolescent perdu, brutal, violent, adoré de ses petits soldats, que Moïse va d'abord suivre aveuglément, mais contre qui, plus tard, il va se rebeller. Écoutons d'abord Marie.
Avec dextérité, la jeune fille sort le bébé de son emmaillotage et je réalise que celui-ci est bandé comme une momie. Je ne sais pas pourquoi je le prends, ce bébé qu'on me donne, mais celui-ci s'étire dans mes bras et c'est merveilleux ce petit corps chaud qui se love contre moi. Le petit ouvre les yeux. La mère recule contre le lit et moi, ce que je vois est incroyable. Je n'en ai jamais vu de ma vie, juste appris le terme exact au cours de mes études. Le bébé a un œil noir et un œil vert. Il est atteint d'hétérochromie, une anomalie génétique absolument bénigne. Le vert de son œil est comme le vert des feuilles de l'arbre à pin, non du manguier, oh je ne sais plus. C'est ce vert incroyable qu'ont parfois les arbres de ce pays pendant l'hiver austral. Il me regarde avec ce regard bicolore, je lui parle, je lui dis « Bonjour, joli bébé ». La mère me dit alors en faisant de grands signes vers le petit garçon. « Lui, bébé du djinn, lui, portait malheur avec son œil, lui, portait malheur. » J'ai 44 ans et Moïse, mon fils, me dit que son vœu le plus cher serait de goûter à la neige. Comme c'est étrange. Il me demande si c'est un bon vœu et je réponds oui. Je devrais lui raconter comment, moi aussi, j'aimais quand la neige tombait dans ma vallée enfoncée et que lentement tout devenait blanc et silencieux et féerique. Je devrais lui raconter comment je mangeais la neige à pleine main, mais je ne le fais pas Ces mots restent dans ma gorge et m'écorchent comme des arêtes de poisson. Moïse est un garçon dont le rire est discret, rare, et dont la grâce m'émeut chaque jour. Quand il marche, quand il court, quand il fait ses devoirs, quand il joue, quand il dort. D'où ça vient ça? De sa mère ou de son père? L'avais-je perçu cette grâce ce jour-là quand sa mère me l'a tendue et qu'il s'est étiré dans mes bras, tout chaud, tout petit? Un jour, il faudra que je lui parle de ce moment-là, mais je n'ai pas envie de penser à cela, pas tout de suite. J'ai envie de vivre cette vie-là qui est douce et que je bois à petites gorgées pour ne pas la gaspiller. Moïse va à l'école privée de Pamandzi, là où il n'y a que des métropolitains ou des enfants de Mahorais ayant vécu longtemps en France. Parfois, il arrive qu'on lui fasse une remarque sur son œil, mais Moïse sait prononcer correctement hétérochromie. Il en a même fait l'année dernière un exposé devant sa classe. Il ne demande jamais rien sur ses parents biologiques. J'aime lui dire qu'il est né dans mon cœur, que j'ai traversé les continents et les mers pour le retrouver et que j'ai attendu et que je l'ai attendu longtemps. Cela lui plaît. Moïse finit toujours ses repas, ne laisse rien sur l'assiette. Et je crois que ça vient de loin, ça, cette vérité qu'il porte en lui et dont il n'a pas tout à fait conscience. Cette vérité qui le fait racler son assiette, manger tout d'une pomme, pépins et trognons, ne jamais réclamer, se faire léger, se faire oublier. Nous avons maintenant un chien que nous avons baptisé Bosco, car le livre préféré de Moïse est « L'enfant et la rivière ». Bosco est un bâtard que j'ai recueilli près de l'hôpital.
Oui, « L'enfant et la rivière » de Henri Bosco, bien sûr.
J'ai 47 ans et je me souviens de ce mal de tête constant. Je sais que je devrais aller voir un médecin, mais je ne le fais pas. Parfois, je pense à la maison désormais vide de mon enfance et me vient cette idée saugrenue que j'y serai bien là-bas maintenant. J'échapperai à la chaleur qui me vrille la tête. J'échapperai à ce pays que je sens parfois bouillir de rage. J'emmènerai Moïse loin d'ici. Finalement, j'ai trouvé le courage de lui parler, de lui raconter son histoire. J'ai commencé comme ça. C'était le 3 mai, il pleuvait. Ta mère est arrivée par un kwassa sur la plage de Bandra Kouni. Je pensais que ça lui suffirait, mais non. Chaque jour, il veut que je parle à nouveau, que je raconte encore et encore plus lentement, que je me rappelle des couleurs, des formes, des mots exacts. Mais moi, j'ai tellement mal à la tête et je ne veux plus ressasser la même chose. Et Moïse se met en colère. Il me traite de menteuse. Il veut aller sur la plage de Bandra Kouni. Mais comment lui dire que ce n'est pas une plage, qu'il n'y a rien qui l'attend là-bas? Moïse, mon fils, m'appelle désormais Marie et non plus Mam. Il me dit que je l'ai élevé comme un blanc, que je l'ai empêché de vivre sa vraie vie, que son destin n'était pas celui-là. Il sèche l'école, il traîne, il réclame tout le temps de l'argent, il m'en veut. Je le vois dans son œil vert. Je l'entends se réveiller. Peut-être qu'aujourd'hui il ira au collège. Il ne portera pas cette casquette qui lui barre la moitié du visage. Peut-être qu'aujourd'hui, il ne traînera pas avec ce garçon sale qu'il a rencontré il y a quelque temps. Peut-être qu'aujourd'hui, il portera fièrement son œil vert comme on porte un talisman. Peut-être qu'aujourd'hui, il m'appellera à nouveau Mam. Je pose sur le comptoir de la cuisine son bol préféré sur lequel est marqué son prénom. La douleur est un poignard chauffé à blanc qui fouille ma tête. J'ouvre la boîte hermétique où je garde les céréales. J'entends Moïse s'approcher dans le couloir et dehors, tout à coup, je vois ma mère. Elle se tient près de la fenêtre et me regarde avec des yeux infiniment tristes. Je comprends instantanément. Il faut me croire. De là où je vous parle, les mensonges ne servent à rien. Je n'ai pas senti l'artère éclater dans mon cerveau. Je n'ai pas senti le dernier spasme de mon cœur. Il faut me croire quand je dis que je n'ai pas eu mal quand ma tête a heurté le sol et que mon bras s'est tordu sous mon corps dans un angle bizarre. Il faut me croire quand je dis que je suis restée debout à côté de moi-même et que le pire est à venir.
Le pire, oui, le pire après la mort de Marie. En fait, la mort de Marie, c'est une rupture totale pour Moïse. Il va trouver sa mère adoptive morte dans la cuisine. Et après une journée à l'école, qu'il subit un peu comme une journée normale, il fuit à l'autre bout de l'île comme épouvanté. Son errance de presque 2 ans est décrite en flashback dans la deuxième partie du roman, après une courte partie où est brutalement annoncée la fin de la relation de Moïse avec Bruce. Donc, c'est à cela que nous allons nous consacrer maintenant. Écoutons d'abord le récit de Moïse.
Je m'appelle Moïse, j'ai 15 ans et à l'aube j'ai tué. Je voudrais qu'on sache que j'ai à peine appuyé sur la détente. Si Marie était là, je le lui aurais dit, à elle. J'aurais dit comme ça, j'ai à peine appuyé, mam, et le coup est parti. Et elle m'aurait cru, elle, mais ça fait plus d'une année que Marie n'est plus là. Je suis seule et j'ai tué Bruce, à l'aube, dans les bois. Bruce et son cœur de sauvage et son cerveau de malade et sa langue de serpent. Bruce qui m'avait, je l'ai tué. Il s'est écroulé avec ce han sorti de sa gorge comme un souffle étranglé. Et puis, dans les bois, pendant de longues minutes, il n'y a rien eu d'autre que le matin qui se levait et cette lumière rose qui traversait les branches et qui tombait telle des lames sur Bruce. Le pistolet était chaud, dur et lourd dans ma main. Je l'ai serré fort et j'ai senti son énergie grimper sur mon bras comme des milliers d'aiguilles brûlantes. Cette île, Bruce nous a transformés en chiens. Toi qui avais choisi le prénom d'un super-héros, Bruce Wayne, m'avais-tu expliqué en sautillant sur place comme si tu avais des ressorts aux pieds. Bruce Wayne, l'homme chauve-souris, parce que tu aimais les chauves-souris, enfin... C'est ce que tu disais, car moi je ne t'ai jamais vu aimer autre chose que fumer et dominer les autres. Cette île a fait de moi un assassin. Tu te souviens? Tu me disais pas de pitié, Mo. Et regarde, Bruce, je n'en ai pas eu pour toi ce matin. J'ai glissé l'arme dans mon sac et j'ai pensé à tout ce que ce sac contenait de ma vie d'avant, de ma vie quand je vivais dans une maison en briques rectangulaires et un peu rose. Quand la nuit était pour les chiens, les roussettes, les voleurs, et que moi je n'étais pas encore un chien, un voleur, un assassin, mais juste un garçon avec un œil vert et un œil noir. J'ai pensé que cette arme lourde et noire côtoyait mon livre, le foulard de Marie. J'ai imaginé que ce pistolet noir était peut-être collé à sa carte d'identité. Je me suis levée et j'ai laissé Bruce dans les bois. J'ai marché encore et encore. J'ai gardé la tête baissée. Je n'ai pas regardé les rues au petit matin. Je n'ai pas regardé le ciel. Je n'ai pas regardé la mer. J'ai marché jusqu'ici. J'ai attendu devant la grille et le flic m'a ouvert. J'ai dit, j'ai tué un garçon là-haut, dans les bois, au lac Diani. Le pistolet est dans mon sac. Et le flic m'a regardé comme s'il avait vu un fantôme. Au poste, j'ai donné des indications précises et ils m'ont mis ici, dans la cellule. Les bords du banc sont rugueux et griffent l'arrière de mes genoux. Ce n'est pas grand-chose ces petites égratignures, mais aujourd'hui, pour moi, qui ai connu les nuits dehors, les bagarres à mains nues, les courses à travers les bois, le feu d'un couteau sur mon visage, les orteils grignotés par les rats, la faim, la solitude, la peur, la vraie, je veux dire, celle qui vous fait vous faire dessus. Pour moi, aujourd'hui, qui vient de tuer un être humain, ces petites égratignures sont insupportables. J'entends soudain le han de Bruce. Ce bruit vient d'ici même, à côté de moi. Je me retourne, mais il n'y a rien. Je ferme les yeux et je dis, j'ai à peine appuyé ce matin, le coup est parti. Tu ne voulais pas le tuer? C'était un accident? Je revois Bruce jaillir des eucalyptus comme une apparition du diable. Et je ne me suis même pas demandé comment il m'avait retrouvé. J'ai sorti le pistolet et c'est là qu'il m'a appelé « Mo, ma chérie », avec ce sourire que je veux effacer, car je sais ce qu'il a dans la tête. Je me souviens comment il m'avait. « Dis-moi, c'était un accident ?»« Non, je voulais le tuer. » Mes propres paroles tournent autour de moi comme de grands oiseaux aux ailes démesurées. Et il n'y a jamais rien eu de plus vrai dans ma vie. « Bon. » Tu seras présenté chez le juge cet après-midi ou demain. Mon sac. Ne pense pas à ça maintenant. Repose-toi, Moïse. Ce prénom me fait sursauter et mes mains recommencent à trembler. Le flic s'en va, mais je sais qu'il reste contre la porte qu'il vient de verrouiller. Mon sac me manque et mes mains, malgré moi, tâtent de temps en temps le sol comme pour en retrouver les contours. Ce sac à dos de couleur marron appartenait à Marie. Elle le prenait pour aller travailler et le portait sur une seule épaule. Il est fait dans une sorte de tissu synthétique épais qui résiste à tout, à la boue, à la pluie et même au soleil de Mayotte, qui fait craquer les dalles de béton et éclater le goudron. Chaque soir, je pose ma tête dessus comme sur un oreiller. Dans ce sac, il y a mon livre, L'enfant et la rivière, la carte d'identité française de Marie, un couteau que j'ai trouvé hier dans la cuisine de Stéphane et un foulard avec des motifs bleus et verts qui appartenait à Marie et qu'elle aimait porter autour du cou les soirs où nous allions manger un poulet coco chez Nassouf. Elle laissait le sac marron à la maison alors et choisissait une pochette de toile brodée de fils dorés et bleus vifs. Pendant combien de temps encore vais-je me souvenir de cette pochette, de la façon dont les fils s'entrelaçaient pour former un motif en forme de goutte d'eau? J'ai rêvé que j'étais revenue à la maison. Mon corps était redevenu celui d'un enfant, chaud, élastique, doux. Mon visage était sans cicatrice. Il y avait de la musique. Le soleil entrait en biais dans le salon et dessinait des formes sur le carrelage. C'était propre, ça sentait bon. Je jouais, je courais d'une pièce à l'autre, bondissant d'une lumière à l'autre, d'une chaleur à l'autre. Je me demande pourquoi une partie de moi refuse d'accepter que c'est fini, ça, à la maison. Les murs solides de béton, les rideaux colorés aux fenêtres, les toiles moustiquaires vaporeuses, le toit en tôle vert où la pluie dansait la sarbacane, le manguier aux fruits sucrés dans la cour, le parfum d'ylang-ylang à la tombée du jour, les repas chauds, l'enfant et la rivière, l'école, les jeux, les devoirs, les douches aux petits Marseillais, les chemises blanches en coton, les carrés de chocolat au goûter, la lettre X au Scrabble, les biscuits lus, l'aigle noir, les sommeils de plomb, les journées entières à ne penser qu'à jouer. Ça se cache où, cette chose incassable? Est-ce que dans cette partie mystérieuse appelée inconscience, ce mot que Marie m'avait appris quand elle m'avait parlé d'avant? Elle m'avait dit, Marie, elle avait dit comme ça, les mains jointes en prière. Tu as peut-être oublié. Mais c'est dans ton inconscience, mon petit, l'inconscience n'oublie jamais. Je m'allonge sur le sol frais de la cellule qui me rappelle la table de ping-pong. Peut-être que je m'endors un peu, peut-être que je rêve encore de la nuit épaisse et infinie qu'on peut découper en morceaux et avaler. Peut-être que je chante encore. Dis l'oiseau, oh dis, emmène-moi.
Moïse a tué Bruce. Il a voulu le tuer, mais il a à peine appuyé sur la détente. Et Bruce, maintenant mort dans la forêt, nous donne sa version des faits.
Bruce, oh, derrière moi, il y a une femme qui pleure. Je dis, eh, derrière toi, mais Mo fait rien. Il fixe le sol à mes pieds. Dans ses mains, il a toujours ce putain de flingue. Je ne sais pas où il a eu ça. Ça doit être son copain Stéphane qui lui a refilé ce truc. Je suis là pour régler mes comptes. Dans ma poche, j'ai un couteau et je sais ce que je dois faire. Approche, ma chérie, j'ai pas peur de toi, de ton joujou de flingue. Tu veux jouer au dur, mais tu n'y connais rien. Tu m'as humiliée hier devant tout le monde. Putain, comment tu as pu me faire ça? Tu sais que c'est moi qui dois gagner sur le ring. C'est moi qui gagne tous les mouringués.
Les combats.
Je suis le plus fort, je suis le roi de Gaza. Tu t'es tiré comme un voleur après et je savais que t'allais venir ici. Je t'attends depuis hier soir, Mo. Tu te souviens quand tu m'avais parlé de cet endroit comme ta mère? Comment ta mère, enfin celle que tu appelais ta mère, la Muzungu, qui est morte d'un coup, sans que personne ne la frappe, sans que personne ne lui fasse peur. C'est bien une mort de blanc, ça, une mort de riches qui ont des poubelles qui débordent. La Bueni, elle est debout dans sa cuisine en train de préparer ton bol de céréales. Tu entends un bruit, bang, et elle est morte. Cette femme, elle t'emmenait ici. Tu m'avais bien expliqué où et comment et pourquoi, avec tes mots de gentil garçon qui a été à l'école, et tu m'avais dit que c'était ton endroit préféré. Et crois-moi, ce jour-là, j'ai failli te tomber dessus et t'éclater comme une papaye. Et tout de toi, ton œil vert, ton sang, ta merde, ta bave, ton foutu sac, tes couilles, ta bite, ton cœur, tout ça, Je voulais le voir par terre, sur mes mains et sur les murs. Tu vas me le payer, maux la cicatrice. Tu m'entends ? Je vais t'éclater, mais je ne peux pas m'approcher de toi. On dirait que dans mon dos, il y a un élastique qui me ramène toujours ici, vers ce corps qui est mort, mais qui pisse encore du sang. C'est toi qui m'as tiré dessus, maux ? J'ai envie de rire. Je ne savais pas que les morts pouvaient rire. Ne crois pas que je suis naïf. Les garçons comme moi en finirent par crever plus vite que les autres, je le sais ça. Mais si on m'avait dit, le jour où je t'ai vu pour la première fois près de la barge, si on m'avait dit ce jour-là qu'un bâtard comme toi me tuerait, j'aurais éclaté de rire. Et tu m'entends ou quoi ? Mo ne m'entend pas. Il range le pistolet dans son sac et se lève. La femme qui pleure me regarde un instant, puis elle le suit. Je regarde par terre et tout à coup, je n'en ai plus rien à foutre d'être vivant ou mort.
Après la version de Bruce, on va écouter celle du policier qui est allé chercher son corps sur les indications de Moïse. Puisque Moïse s'est livré, le policier à qui il s'est livré va bien sûr chercher le corps de celui qui l'a tué. Donc il s'appelle Olivier. J'ai téléphoné aux pompiers et par chance, je suis tombée sur Bakar, qui, comme moi, préfère travailler la nuit quand on peut arrêter de réfléchir et se contenter de se souvenir. Il est venu me chercher rapidement avec un véhicule de premier secours. Et le corps, nous l'avons trouvé facilement. Ben oui, les explications de Moïse étaient faciles. Et pendant un moment, Bakar et moi sommes restés debout auprès de ce corps, en silence. Il avait des baskets neuves aux pieds, un bermuda kaki et son t-shirt était noir de sang séché. Ses yeux écarquillés regardaient le ciel. C'était un gamin. Il ne fallait pas qu'on traîne. Il fallait appeler le commandant qui lui-même appellerait le préfet. Il fallait appeler les renforts. Et je voyais déjà les gros titres des journaux. Un premier meurtre par arme à feu à Mayotte. Bakar fixait le visage du mort. Je ne pouvais pas dire s'il avait peur, s'il se sentait mal ou s'il était triste. Et soudain, il a dit « C'est Bruce ». « Bruce ? Qui c'est Bruce ?»« C'est le chef de Gaza. »« Ah, merde !» Le vent a sifflé dans les branches et nous nous sommes regardés. Je ne sais pas qui a surnommé ainsi le quartier défavorisé de Kaweni, à la lisière de Mamoudzou, mais il a visé juste. Gaza, c'est un bidonville, c'est un ghetto, un dépotoir, un gouffre, une favela, c'est un immense camp de clandestins à ciel ouvert, c'est une énorme poubelle fumante que l'on voit de loin. Gaza, c'est un no man's land violent où les bandes de gamins shootés aux chimiques font la loi. Gaza, c'est Cape Town, c'est Calcutta, c'est Rio. Gaza, c'est Mayotte. Gaza, c'est la France. J'ai fermé les yeux. Peut-être avais-je l'espoir que tout ça se révèle un cauchemar. J'ai pensé, voilà, ça va être la guerre à Mayotte. C'est l'effet papillon qui nous pète à la gueule. Il m'est arrivé d'espérer, après quelques articles parus dans un journal métropolitain à grande diffusion ou après une visite présidentielle bien médiatisée, que quelque chose bouge, que quelqu'un, quelque part, dans les équipes d'énarques qui suivent les ministres, parmi les historiens et les intellectuels qui lisent les journaux, comprennent vraiment de quoi il s'agit ici et trouvent une solution. Je ne suis pas historien, je ne suis pas politicien, je ne suis pas intellectuel, je ne suis pas visionnaire, je ne suis qu'un flic. Et si je connaissais le moyen de guérir ce pays, je le dirais, haut et fort. Pourtant, il n'y a jamais rien qui change. Et j'ai parfois l'impression de vivre dans une dimension parallèle où ce qui se passe ici ne traverse jamais l'océan et n'atteint jamais personne. Nous sommes seuls. D'en haut et de loin, c'est vrai que ce n'est qu'une poussière ici. Mais cette poussière existe. Elle est quelque chose. Quelque chose avec son envers et son endroit, son soleil et son ombre, sa vérité et son mensonge. Les vies sur cette terre valent tout autant les unes que les autres, non ? C'est l'histoire de ces bateaux qu'on appelle Kwassa. Vous savez, les Kwassa, Kwassa, ailleurs appelés barques ou pirogues ou navires, et qui existent depuis la nuit des temps pour faire traverser les hommes, pour ou contre leur gré. C'est l'histoire de ces êtres humains qui se retrouvent sur ces bateaux, c'est quoi ça ? Et on leur a donné de ces noms à ces gens-là depuis la nuit des temps. Esclaves, engagés, pestiférés, bagnards, rapatriés, juifs, boat people, réfugiés, sans papier, clandestins. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Je ne suis qu'un flic. J'applique la loi française sur une île oubliée. Et devant le corps de Bruce, chef de bande à Gaza, tyran, voleur, voyou, j'ai gardé les yeux fermés, j'ai prié. Donc voilà, c'est l'essentiel du début, avec ces quatre témoignages que nous avons entendus, ces quatre narrateurs qui nous ont exposé les faits. On va maintenant écouter un peu de musique, et puis après la musique, on verra ce qu'a vécu Moïse, justement, après la mort de Marie. Et ce qu'il a vécu, c'est justement le cœur du sujet du roman, la préoccupation principale de Natacha Apana, avec le roman Tropique de la violence. En fait, elle nous décrit le quotidien de dizaines d'enfants des rues à Mayotte. Musique.
Malakon Hanyu, Panayam Tifat, Chubas na wanywe.
Après cette musique traditionnelle de Mayotte, de Nahilawe Komo, revenons au récit de Moïse. Donc, Moïse nous donne sa version de la suite de l'histoire.
Je pensais que le jour où je découvrirais la vérité sur ma naissance, quelque chose dans ma tête ferait bam, que je tremblerais, que je me mettrais à réfléchir à toute vitesse, que toutes mes pensées se mettraient en bonne place, comme un grand puzzle, enfin résolu, et que je deviendrais tout à coup un as de moi-même. Et qu'à partir de ce jour-là, personne ne me la ferait plus. Je saurais exactement qui je suis, ce que je vaux, ce dont je suis capable. Foutaise! Quand j'ai su la vérité, je me suis sentie un moins que rien, une merde, un gosse qui a fait peur à sa propre mère quand il est sorti d'elle, un gosse qu'elle a donné au premier venu. Comment appeler cela? J'étais en colère contre Marie et j'avais l'impression qu'elle me cachait quelque chose et je lui faisais répéter encore et encore et encore. C'était le 3 mai, il pleuvait. Ta mère est arrivée par un kwassa sur la plage de Bandrakouni. Ainsi commençait-elle à chaque soir. Et je guettais l'erreur. Parfois elle disait kwassa, kwassa, parfois juste kwassa. Et ça me mettait en rogne, je ne sais pas pourquoi. Elle refusait de m'emmener sur la plage qui se trouve dans le sud de Grande Terre et je ne comprenais pas son refus. Peut-être que je l'ai traitée de menteuse, de voleuse d'enfants. Peut-être. À peu près à la même époque, j'ai rencontré la teigne. La teigne zonnait près du collège le vendredi car il espérait que Moussa, qui était dans ma classe et qui était son cousin, allait lui filer un billet. Moussa et moi, on était amis, même si on ne parlait pas beaucoup. Il ne faisait pas de remarques sur mon œil vert, il ne me demandait pas pourquoi ma mère était blanche, il ne me demandait pas si j'étais un Africain adopté. Moussa aimait la musique locale, le mgodro, qu'il écoutait sur un vieil appareil à cassette au son brouillé, et je faisais semblant d'apprécier. J'aimais surtout quand Moussa se levait et commençait à danser, les jambes fléchies, les fesses en arrière. Il tournait en rond, comme ça, avec des mouvements saccadés. À chaque changement de rythme de la musique, il ouvrait grand les yeux, comme en transe, et ensuite il éclatait de rire. Les parents de Moussa avaient fait des études d'économie à Poitiers, en métropole, et il était convenu qu'après son bac, Moussa ferait de même, à Poitiers également. Chez lui, c'était comme chez moi. Nous buvions de l'oasis et mangeions des pains au lait, tartinés de Nutella. La teigne venait souvent le vendredi et il attendait sous un arbre à pain en contrebas de la route qui menait au collège. Il semblait se camoufler dans l'ombre comme un margouilla. Quand on passait près de l'arbre, il se montrait d'un coup. La teigne parlait un français approximatif mélangé à du chimaoré. Moussa lui filait 1 ou 2 euros. S'il n'avait rien sur lui, il se tournait vers moi et je fouillais dans mes poches. La teigne partait alors sans se retourner, la tête relevée, les épaules en arrière. Moussa m'a raconté que la teigne, dont le vrai nom était Mamad, était un cousin éloigné. Les parents de Moussa n'aimaient pas qu'il fréquente la teigne, car ce dernier était un clandestin. Ils craignaient que la police découvre leur lointaine parenté et leur demande de recueillir la teigne. Moussa me disait « Nous avons plein de cousins et de tantes et d'oncles comme ça à Mayotte, surtout en Grande Terre. Ils viennent d'Anjouan ou de Grande Comore. Et mes parents disent que si tu donnes à un, il va falloir nourrir un village entier. » Ce mot-là, clandestin, ne m'avait pas laissé indifférent. Si Marie ne m'avait pas recueilli, c'est ce que j'aurais été, non? Un autre la teigne, en short, les pieds sales dans de vieilles savates, le même t-shirt depuis des semaines. Un autre la teigne à traîner et à faire la manche. Au fil des semaines, c'est moi qui lui donnais des pièces et même un billet quand j'en avais. Je lui payais un burger frites coca au Maoré Burger. On allait voir les avions décoller à Pamandzi. Moussa ne nous accompagnait plus, prétextant je ne sais quoi. J'aimais être avec la teigne,
ce garçon maigre qui sentait la sueur et le fer, qui ne disait presque rien et qui marchait du matin au soir. Ses pieds étaient épais, larges, les orteils démesurés. Le soir, il reprenait la barge et dormait dehors. Il n'était jamais allé à l'école. Quand il voulait se laver, il plongeait du ponton de Mamoudzou. Quand il voulait manger, il allait chercher des fruits. Il me fascinait. J'imaginais qu'il était mon frère, mon cousin, et qu'on serait tous les deux des enfants sauvages, à courir, à manger des fruits sauvages, à se baigner dans les rivières. Quand on se séparait, à Dzaoudzi, j'avais l'impression qu'il partait pour la vie, la vraie vie, et que moi, je rentrais dans une maison de mensonges, que je jouais à l'infini un rôle dans une pièce de théâtre que Marie avait écrite pour nous. Mais, un matin, Marie s'est effondrée, bang, sur le sol de la cuisine. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je me suis accroupie près d'elle. J'ai remarqué que son oreille saignait. Elle avait les yeux écarquillés, comme si elle avait vu un fantôme juste avant de tomber, et ça lui faisait un visage différent. Dans ma tête, les pensées volaient de gauche à droite, de droite à gauche, et chaque pensée me disait de faire quelque chose. Il faut mettre le sachet de céréales dans la boîte à l'abri des fourmis, ranger le lait, sinon il va tourner, recoller le bol cassé, nettoyer le plan de travail, il faut réveiller Marie, aller à l'école, manger quelque chose avant d'aller à l'école, vérifier que les fenêtres soient bien closes, il faut fermer la porte à double tour, bien abaisser le loquet, donner à manger à Bosco, et lui laisser de l'eau, bien pincer le cadenas jusqu'à entendre le petit clac, secouer la chaîne pour vérifier qu'elle tienne bien. Il faut y aller maintenant, c'est l'heure. Alors, je suis allée à l'école. Je ne sais pas ce que j'y ai fait, à qui j'ai adressé la parole. Je ne suis pas rentrée déjeuner. Je suis allée voir les avions décoller à l'aéroport et j'ai continué à marcher jusqu'à ce que mes pas me ramènent à la maison. La voisine est sortie à ce moment-là et elle m'a dit que Bosco n'avait cessé d'aboyer depuis le matin. Elle avait le cou et le visage rouge et elle a mis ses mains sur ses oreilles quand elle a dit le mot « aboyer ». J'ai haussé les épaules et je suis rentrée vite dans la cour. Bosco est venu vers moi, se frottant contre mes mollets, enfonçant sa tête entre mes jambes. Il a émis plusieurs sons plaintifs, « i, i, i » et je me suis mise à pleurer. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas appelé la police, l'hôpital ou Moussa ou même la voisine. J'avais 14 ans, j'étais seule, j'avais peur. Et même si toutes ces raisons ne suffisent pas, c'est tout ce que j'ai. Le lendemain matin, j'ai fui. J'ai fermé la maison, j'ai pris la barge avec Bosco. Et de l'autre côté, sur le quai de Mamoudzou, j'ai attendu la teigne. La teigne était devant, Bosco et moi au milieu. Bruce fermait la marche. Je ne savais pas du tout ce que je faisais, où j'allais. J'avais attendu toute la journée et personne, pas une femme, pas un homme, pas un flic, ne m'avait demandé ce que je faisais là avec un chien. J'étais fatiguée et perdue, mais je savais que je ne voulais pas retourner à la maison. Marie, sur le sol, l'odeur, les rongeurs, les fourmis dans les céréales, le lait aigre, les bruits, les hurlements de Bosco, le vide de la nuit, non. Nous avons traversé la place du marché. Les gens sortaient de partout et allaient dans tous les sens. Il y avait tout ce bruit qui résonnait dans ma tête, dans mon ventre. On a bifurqué à droite et nous avons marché sur un muret assez étroit qui séparait la route de la mangrove. Celle-ci poussait sur la terre ou le sable noir, je ne sais pas. Tout au long du muret, du côté de la mangrove, il y avait des sacs plastiques, des vieilles chaussures, des chiffons, des couches usagées, des fils électriques de couleur. Le soleil se couchait et dans ce jour qui devenait d'abord bleu-gris, puis tout à fait gris, j'ai commencé à me sentir oppressée. Je me sentais si vulnérable, si petit. J'avançais à tâtons dans ce clair-obscur en serrant la laisse jaune fluo de Bosco dans mes mains. Très vite, la nuit est tombée, comme une couverture épaisse sur nous.
C'était donc le récit de Moïse ou comment il a commencé sa vie avec les garçons, comme lui aussi un garçon sauvage. Voyons maintenant ce que dit Bruce après sa mort. Je me demande où ils vont m'enterrer et quel nom ils vont me donner. Je me demande s'ils vont avertir mon père en lui disant « Votre fils, Ismaël Saïd, est mort » ou s'ils vont lui dire « Bon, c'est mort » et lui ne va rien y comprendre. Et quelle merde! Si tu crois que c'est facile d'être le chef de Gaza, on ne devient pas le roi comme ça. C'est la jungle ici. Il faut être un lion, il faut être un loup. Il faut savoir renifler l'air, sentir les proies, sortir les griffes. Et moi, je les ai sorties. Et c'était quand il y a eu les grandes grèves. Qui a fait le premier feu sur le carrefour de Kaweni? Moi. Qui a décidé de bloquer la route? Moi. Qui a lancé le premier caillou sur les pompiers? Moi. Haha. Tout le monde me suivait, les adultes, les fonctionnaires, les vendeurs, les syndicats. Ils criaient tous « Non à la vie chère !» Mais moi, je m'en fichais de ce qu'ils criaient. Moi, j'avais allumé le feu et ce que j'ai fait, c'était d'être un chef de guerre qui menait la troupe, qui allumait le feu, qui décidait quand on éteignait le feu aussi. Et tout le monde l'a su. Même le vent disait mon nom. Et c'est comme Gotham qui appelle Batman. Moi, c'était Gaza qui appelle Bruce. Il faut être fort, ne pas avoir peur de se battre. Et à Gaza, on savait que Bruce est comme Batman. Il domine tout le monde. Il ne cède ni devant les flics, ni devant les politiciens. Il sait tout transformer en armes. Un caillou, un bâton, une feuille de tôle, un couvercle de marmite. Il faut savoir cogner, il faut savoir gagner devant tout le monde. Et bang, bang, comme ça j'ai sauté, j'ai hurlé. Et toi, un jour, tu es arrivé avec ton œil vert qui s'est ouvert comme jamais. Et dedans, dans cet œil vert, je voyais les djinns que mon père avait promis si je ne filais pas droit. Les djinns que je fuyais sur cette colline avant Gaza. Les djinns qui avaient poursuivi mon enfance. Avec le vert des arbres et les fruits qu'il ne faut pas cueillir à la nuit tombée et les feuilles qu'il ne faut pas toucher. Alors, mon coupe-coupe est apparu dans ma main. Je l'ai passé sur ton visage, au-dessus du sourcil et jusqu'à la mâchoire. Et comme on passe un crayon sur le papier, doucement mais sûrement. Et voilà, sans appuyer, sans hésiter, un trait fin et sûr. Et le sang a pissé et la foule a crié. C'était ma couronne lourde d'or de roi de Gaza que je sentais à nouveau sur ma tête. Non, je ne mens pas. Je n'ouvre pas ma bouche pour mentir. Et toi d'ailleurs, tu n'as pas crié, tu n'as pas bougé d'ailleurs. Mais peut-être que tu n'as rien ressenti, que tu étais vraiment un enfant de djinn, celui dont mon père disait qu'il fallait faire gaffe parce que tu étais un djinn. Alors Moïse, qu'est-ce qu'il a fait après ?
C'est un vieux blanc qui m'a recousu. Il s'appelle Dédé. Il porte un pagne autour des reins, un t-shirt sans manches et la télévision est allumée chez lui nuit et jour. Dans son salon, il y a une photo de lui en uniforme de militaire. Je suis restée chez lui pendant des semaines. Le temps n'avait plus d'importance. J'étais tombée dans un lieu secret, une nuit sombre et interminable dont il me serait impossible de ressortir.
Alors, Moïse blessé est donc dans un genre de refuge qui a été procuré par Bruce, mais qui le met complètement à l'écart du bidonville de Gaza pendant quelque temps. Et pendant que Moïse n'est plus là, en fait, Bruce pense à lui. Bruce, t'as toujours cru que tu étais différent de nous autres. T'avais cette chose en toi que j'arrivais pas à toucher, à faire plier, à éteindre. Parfois, quand je te voyais assis, immobile comme une pierre, j'avais envie de te secouer, de te dire que ça ne servait à rien de rester comme ça. Les garçons, comme toi et moi, c'est fait pour cogner la vie, pour rentrer dedans, pour crever sans regret. Pas de pitié, Mo, pas de pitié. T'es comme nous autres, Mo. T'es noir, t'es seul, t'es coincé ici, t'es à la rue. Je savais que tu passais tes après-midi là-haut, dans le bocal de ce bouffon de blanc, là, le mec de l'ONG. Qui ressemble à rien. Sa peau est si pâle qu'on dirait qu'il est déjà mort. Il est maigre comme un pilon. Et qu'est-ce qu'il nous saoule avec ses paroles et ses matchs de foot. Avant chaque séance de cinéma, il se croyait obligé de nous raconter des milliers de trucs sur les comédiens, sur celui qui a fait le film, ou même de raconter le film. Non, mais il est con, lui, ou quoi? Enfin, Je pensais que tu regardais la télévision dans leur salon, mais non, en fait, tu lisais. Tu fais que ça, t'asseoir et lire. Enfin, j'ai laissé faire. Et voilà Moïse.
J'ai 15 ans, je m'appelle Moïse. Je suis née de l'autre côté de l'eau. Ma mère a eu peur de moi. Ma mère a eu pitié de moi et d'elle-même. Ma mère s'est demandé ce qu'elle avait fait à Dieu et à tous les djinns pour avoir un enfant avec un œil noir et un œil vert. Bruce m'a fait signe d'approcher. Et d'un coup de la main, il a fait voltiger ma casquette et a approché son visage du mien. Il sentait la fumée âcre et épaisse du chimique. Son haleine était lourde, mais ses dents étaient d'une blancheur de lait. Il a passé doucement son index sur ma cicatrice et je n'ai pas bougé. Il a dit « C'est doux, ça ?» Il a plié le même index et a passé cette fois-ci son ongle sur ma cicatrice comme s'il voulait la gratter. J'ai commencé à trembler. Il a demandé en pinçant sa voix « C'était bien que Kanikeli avec ton chéri ?» Les autres autour de lui ont ri aux éclats et ce gros rire, comme sorti de la gorge d'un seul homme, a éclaté ce matin-là. Et je ne sais pourquoi, au fond de ma mémoire, se sont détachés les mots de ce livre que j'aime tant. Alors, toutes les bêtes remuées, c'était l'éveil. Je n'ai plus peur maintenant. Bruce est mort. Je l'ai tué ce matin dans les bois. Il ne reviendra plus.
Oui, c'est l'éternel, au moins au niveau du roman, opposition entre Moïse et Bruce. Bruce qui veut la violence, mais qui essaye de séduire Moïse. Moïse qui n'est pas sûr de lui, mais qui refuse justement cette séduction de Bruce, qui repousse Bruce et qui va continuer à le repousser jusqu'à la fin. Bruce nous dit « Je sais que je suis mauvais, même ici, dans cet endroit un peu gris. » Comme si la nuit allait tomber à tout moment, je ressens la colère et le dégoût, et toujours ce goût bizarre dans ma bouche, comme si j'avais les dents qui pourrissaient. Mais je voudrais m'en aller maintenant, j'en ai assez vu. Je voudrais retrouver la poussière et l'odeur de Gaza. Je voudrais revoir la peur et l'admiration dans les yeux de tous dès que je franchis le seuil de Gaza. Bruce, Bruce est là, Bruce, Bruce. Et cette musique qui me suivait dans les rues quand je descendais la ravine, quand je m'arrêtais pour discuter avec les gars de l'atelier, quand je montais dans ma banga et que je passais devant la vieille cascade. Cette musique me donnait des ailes et je portais ce prénom, Bruce, la tête haute, en distribuant bons points et mauvais points, joints et claques, bière et coups de pied. Et je me disais que j'étais vraiment comme Batman et que j'aimerais bien rebaptiser Gaza Gotham City. Ah, ça aurait de la gueule! Alors, Bruce Wayne, Bruce à Gotham City, mais en fait, Bruce est mort, et c'est ce qu'on va retrouver à la fin, avec la fin de Moïse aussi. L'opposition des deux garçons se poursuit, et l'opposition un petit peu cachée, qui se faisait à travers leurs occupations, à travers leurs activités, cette opposition donc va prendre corps un beau soir, ou plutôt un vilain soir, puisqu'ils se battent vraiment lors d'un de ces combats que Bruce organise justement au sein du bidonville de Gaza.
Bruce a commencé à danser sa petite danse en sautillant et en s'accroupissant, et il tournait autour de moi en riant, et la foule riait aussi. Je les entendais dire « Le fou, le fou !» Mais alors, il est arrivé quelque chose d'incroyable. Bosco est venu près de moi et il est entré en moi. Dans une jambe, dans l'autre, dans un bras, dans l'autre, dans ma tête et dans mon cœur, et je suis devenu très grand. Un grand chien au poil ras et tacheté, et j'ai sauté sur lui. Un bond prodigieux, et j'ai fait d'un coup, pendant qu'il continuait de rire, et il est tombé, et mes bras chiens ont tapé sa tête, tandis que mes jambes chiens le maintenaient serré, et que mon cœur chien aboyait, et que ma tête chien hurlait. J'ai couru. J'ai été chercher mon sac que j'avais caché à côté du compteur d'eau et je me suis souvenu du flingue. J'avais descendu la colline avant qu'il ne me trouve et j'ai traversé la route de Kaweni et j'ai longé la mangrove et je suis montée sur la barge sans me retourner une seule fois et, même assis sur les bancs en bois, je n'ai cessé de courir dans ma tête, dans mon cœur. Je n'ai pas regardé Grande Terre s'éloigner. Je n'ai pas regardé si Gaza se transformait en monstre. Je suis revenu ici. J'ai dormi sur la table de ping-pong. J'ai marché avant que le soleil ne se lève jusqu'au lac Ziani pour me souvenir comment c'était avant, quand on y allait avec Marie. Et Bruce est apparu entre les arbres et je ne voulais plus de ces choses-là. Je ne voulais plus être à terre. Je ne voulais plus être mutilée. Je ne voulais plus être violée. Et j'ai sorti le flingue et j'ai à peine appuyé sur la détente. Le policier me prend par le bras droit, le pompier par le gauche, et il me soulève comme si je n'étais rien qu'un bout de bois sec et vide à l'intérieur. Quand mes pieds quittent le sol, il s'arrête une microseconde et se regarde avec étonnement, comme s'il s'attendait à autre chose, que je sois plus lourd, que je proteste, je ne sais pas. J'ai envie de demander au policier si je peux récupérer mon sac, mais son visage est rouge et il transpire à grosses gouttes. Sa chemise est trempée et par à coup son odeur sucrée et âcre me vient au nez. Le pompier, en uniforme, se met au volant, mais avant de démarrer, il me regarde par le rétroviseur. Son regard est si doux que cela m'est insupportable. Je baisse les yeux. « Moïse ?»« Oui. » »« On t'emmène voir le juge. » Mais tu ne sors pas de la voiture avant d'arriver au tribunal. Même sur la barge, on reste dans la voiture, tu as compris? Sinon, je te mets les menottes. Il me cherche, n'est-ce pas? Le policier ne me répond pas, se contente de donner un coup du plat de la main sur le siège conducteur. Le pompier démarre à fond. Dans la voiture tout terrain rouge, je fais comme j'ai fait tant de fois à Gaza. M'asseoir, les genoux bien serrés, les mains entre les cuisses, rentrer la tête dans les épaules, regarder mes pieds, prendre de longues inspirations, les retenir le plus longtemps possible, expirer lentement, se faire petit, aussi petit qu'un caillou inutile. Quand la voiture a accéléré sur le boulevard des Crabes, j'ai imaginé le vent sur mon visage, la mer des deux côtés de la route qui serait bleue et verte et qui viendrait battre le cœur noir des pierres. Sur la barge, Olivier, le policier, me dit de garder la tête baissée et cela ne me dérange pas. Je perçois le bourdonnement du moteur de l'embarcation sous mes pieds et le ressac des vagues. J'imagine sous l'eau, au fond, les sillons invisibles que tracent les dugongs et les colacantes et, plus bas encore, ces animaux aux grandes gueules et aux dents en forme de griffes qui ne vivent que dans le noir de l'océan. J'ai pensé à ces longues minutes passées à nager dans la baie de Bandrakouni, à l'eau veloutée qui m'avait pris dans ses bras doucement, doucement. J'aurais peut-être dû continuer à nager ce jour-là, lancer les bras et les jambes comme je sais encore le faire, nager encore et encore, jusqu'à retrouver une terre qui accueillerait un garçon comme moi. La sirène retentit à l'approche de la baie de Mamoudzou et la barge accoste. Le pompier redémarre et lentement la voiture descend la passerelle grinçante puis remonte l'embarcadère. Olivier me dit « C'est bien, garde la tête baissée. » Je le regarde en biais, il a l'air inquiet, mais il me sourit et chuchote « Tout va bien, Moïse. » Il fait alors ce geste-là, il tend son bras vers moi et sa main vient recouvrir la partie de mon visage qui est balafrée. Sa peau est fraîche sur ma cicatrice et celle-ci ne tire plus. Celle-ci n'existe même plus en cet instant et je voudrais qu'il laisse encore un peu sa main sur mon visage, rien qu'un peu. Je n'ai plus la tête baissée. Je regarde dehors parce qu'à l'instant où tout doit finir, on n'a pas d'autre choix. Ce que je vois est irréel et dans son irréalité, dans sa lenteur, sa profondeur et sa noirceur, ça devient magnifique. À ma droite, la mangrove semble bouger, trembler, se mouvoir. Des palétuviers aux feuilles vertes et des branches enchevêtrées, dans ce sable terre-mer, sortent des dizaines d'enfants. Ils ne courent pas, ils ne se pressent pas, ils sont comme au ralenti. Ils sont vêtus de shorts et de t-shirts, leurs jambes sont couleur cendre, leurs bouches sont fermées, mais leurs mains tiennent des bâtons. Le long de la route qui mène à Gaza, des barriques roulent vers nous en grondant, et derrière chaque barrique, il y a des enfants et des jeunes hommes. En face de nous, d'autres enfants attendent, dans les crevasses de la colline rouge. À gauche, descendant de la place Mariage et des marches de l'immeuble administratif où flotte un drapeau bleu-blanc-rouge, des jeunes torse nus avancent vers nous. Ils ont des machettes à la main et, eux aussi, marchent lentement. Il y a ce court moment de silence où, dans la lumière jaune de l'après-midi, seuls bougent la mangrove, la terre, la colline et les enfants de Mayotte. Bientôt, cette nasse mouvante qui nous entoure se met à ouvrir la bouche et de cette bouche géante ne sort qu'un seul son, une seule syllabe, mot. Et les bâtons frappent le sol, mot. Et les machettes fendent l'air, mot. Et les enfants agitent leurs poings fermés sur les pierres, mot. La nasse s'étend comme une pieuvre gigantesque autour de nous, mot. Je ne sais pas ce qui me prend. C'est comme un désir grand comme la mer de ne pas me laisser faire, de ne pas les suivre, de ne pas courber cette fois-ci. Et tandis que l'odeur âcre et sucrée d'olivier remplit l'habitacle, pendant que le pompier sort une batte de sous son siège, je bondis hors de la voiture. J'entends la voix d'Olivier qui hurle « Moïse !» Mais je ne me retourne pas. Je cours vers la mer, derrière moi la mangrove. La colline et toute la route qui mène à Gaza éclate en même temps avec un fracas monumental. « Mo !» crient-ils tous. Je n'ai pas peur, tandis que mes pieds frappent la terre, que je sens le vent salé et chaud me fouetter le visage, que j'entends la fureur derrière moi. Non, ce n'est pas comme avant, quand tout se ratatinait en moi, quand je ne savais plus qui j'étais ni comment je m'appelais. Non, tandis que je rejoins l'océan, je n'ai plus peur. Je m'appelle Moïse, j'ai 15 ans et je suis vivant. Je vois l'embarcadère et j'accélère. Je suis poussé par le souffle de chacal de la meute, par cette vie de merde que je veux laver. Sans ralentir, je fais alors comme tous les enfants de Mayotte, au moins une fois dans leur vie. Je fais décoller mon corps au bout de l'embarcadère, ma poitrine se bombe, mes jambes et mes bras se soulèvent, je plonge dans la race de Mamoudzou, je fends l'océan de mon corps souple, mon corps vivant, et je ne remonte pas.
Je fends l'océan de mon cœur souple et je ne remonte pas. Bon, évidemment, ça aurait pu mieux se terminer, mais c'est bien ce que voulait Natacha Apana, nous montrer tout le poids de cette vie des jeunes à Mayotte en façon générale et à Gaza en particulier. Donc, c'était un voyage au tropique du Capricorne et nous vous disons au revoir pour cette semaine et vous retrouverons bientôt pour d'autres aventures.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, ingekuwa wa malaika.